Je reçois Juliane Giga, étudiant à l'Université de Tours, mais surtout musicien et chanteur. Bonjour Juliane.
Bonjour.
Juliane, vous avez 23 ans et vous bénéficiez du statut d'étudiant artiste à l'université. C'est un statut qui vous permet un aménagement des études et qui prend en compte votre pratique artistique. Et pour avoir ce statut d'étudiant artiste, il faut avoir une pratique artistique soutenue. Ce que vous avez soutenu et intensive. Alors, vous êtes à la fois producteur de votre musique et interprète. Et dans cette émission, nous allons évoquer votre parcours, vos projets passés et ceux à venir, bien sûr, surtout. Mais avant, pour bien comprendre qui vous êtes, nous allons écouter un premier morceau qui nous éclairera sur votre style musical et on en parlera tout de suite après.
Swallow every moment. So please don't forget me.
We got by well, but I don't know. It was a foolish thought, though I couldn't comply and said farewell. Maybe a bit too soon, it was a little time past the afternoon. I'm doing well, in case you ask about a little.
Ok, merci. Merci Juliane pour ce morceau. Donc, c'est un morceau qui s'appelle OL. Et vous allez un petit peu nous expliquer pourquoi vous avez choisi de commencer l'émission avec ce premier morceau.
Bah alors, ce premier morceau, c'est le premier morceau de mon nouveau projet solo, duo, je sais pas. Mais en tout cas, un projet de rock, indie, pop, un peu enfin, calme. Plus acoustique, avec plus de passages plus simples. Et bah, ce morceau, c'est le premier morceau en soi que j'ai composé pour ce projet. C'est cet enregistrement qui vient de passer à plus d'un an et demi, je pense. Et du coup, j'en suis moins fan aujourd'hui, mais au moins, c'est une bonne introduction pour présenter ça, quoi.
Vous disiez que vous l'avez réenregistré plusieurs fois parce que vous n'étiez pas satisfait.
C'est ça. Et là, je pense que je suis arrivé à une version qui me plaît pas mal et qui devrait sortir dans pas très longtemps.
D'accord, bah écoutez, vous me la transmettrez, puis elle pourra passer dans une des prochaines émissions. Je disais, on en parlait pendant le passage du morceau, ça me fait penser un petit peu, il y a des, comment dire, ça me fait penser un peu à David Bowie.
Oui, ce genre d'inspiration, de toute façon, c'est forcément tout ce que j'ai écouté quand j'étais... petit. Heroes, je l'ai dû entendre un nombre de fois, cette chanson, et bah, j'adore forcément. Donc.
Ça fait partie de vos inspirations.
Et clairement.
Donc, le style de musique auquel fait référence ce morceau, c'est quoi?
Alors, bonne question. Mais je pense que c'est une inspiration, ça s'entend, de toute façon c'est très acoustique. À la base, le morceau était plus punchy avec des une instrumentation plus rock, mais finalement, bah, j'ai simplifié la chose et essayé de faire un truc plus acoustique, plus calme. C'est que je pense qu'à l'époque où j'ai réarrangé ça, j'apprenais un morceau de Cat Stevens et c'est un peu dans, je sais pas, j'aimais beaucoup. C'est un artiste, enfin. Assez connu d'indie, mais très précurseur des années un peu 70. Voilà.
Qu'on n'entend plus maintenant, qui fait tout autre chose, je crois. Donc, c'est de la musique indie, indépendante. Et vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, bricoler.
Oui, indie aujourd'hui, ça veut tout et rien dire, parce que t'as tellement de morceaux qui sont qualifiés de ça. Mais en tout cas, moi, ma vision de cette chose, c'est un style de musique. Entre la pop et le rock, avec un arrangement très stripped down, comme ils disent en anglais, mais simple, quoi, simplifié, et authentique, et un peu proche, intimiste peut-être, je sais pas. Voilà.
Et qu'entendez-vous par bricoler ?
Bricoler dans le sens où, à la base, indie, ça vient quand même du mot indépendant, et du coup, c'est un peu l'idée de faire tout soi-même, quoi, de bricoler dans son garage, dans sa chambre, en l'occurrence pour moi.
C'est ça qui vous plaît. Alors, on a entendu ce premier morceau qui déjà présente qui vous êtes musicalement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui et à qui vous êtes aujourd'hui? On peut commencer petit déjà. Oui. Vous avez baigné dans une atmosphère musicale, non?
Alors, baigner, c'est un grand mot parce que c'est pas non plus autant que je pense d'autres enfants qui ont des parents artistes ou quoi, mais c'est vrai que j'ai fait de la musique assez jeune. J'ai commencé par faire de la batterie en école de musique avec du solfège à côté. C'est pour ça que j'ai vite arrêté parce que on devait faire du solfège et le prof de solfège était méchant. Et en même temps, en parallèle, mon papa faisait un peu de piano quand j'étais petit et il passait toujours les mêmes classiques de rock, les AC/DC qu'on connaît tous et tout. Et forcément, je pense que ça a dû jouer sur le fait que j'aime ça ensuite plus tard. Après, il y a pas mal de temps qui a passé parce que j'ai pas écouté de musique pendant très longtemps. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et je me suis commencé à... écouter de la musique assez tard dans ma vie par rapport à d'autres gens. C'est surtout au lycée que j'ai un pote qui s'est mis à écouter beaucoup de heavy metal et qui m'a du coup partagé un peu cette passion qui forcément du coup faisait écho au truc que j'ai écouté plus petit. Et après ça a continué tout ça. Et c'est au moment aussi le fin du lycée où mon papa s'est remis à la guitare et on s'est acheté une basse à deux. Donc à la fois à mon papa et à moi. Et c'est là que vraiment j'ai commencé à faire de la musique et ça s'est pu arrêter jusqu'à là. C'est surtout au début j'ai commencé tous les morceaux des Ramones. C'est ça qui est bien avec les Ramones ou le punk rock en général des années 70, c'est que tu joues de la basse, enfin en l'occurrence la basse c'est encore plus simple. Tu joues de la basse depuis un mois, tu peux jouer littéralement toute la discographie de tous ces groupes de toutes ces années et c'est parfait. Pour la motivation et puis commencer, c'est moi je recommande.
Oui, puis vous m'avez dit commencer avec la basse, c'est moins frustrant parce que c'est plus facile. C'est ce que vous m'avez dit.
Après, ça dépendra de tout à chacun, mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Je pense que si on aime un peu l'instrument et que après au début aussi
pour apprendre, au début, bien sûr.
Oui, c'est ça. Et aussi la basse, il y a quand même un truc de forcément, il faut moins aimer les spotlights au début, faut moins aimer être en lumière parce que c'est pas non plus l'instrument le plus rémunérateur en termes de visibilité. Mais c'est un chouette instrument. Voilà.
Et donc vous jouiez ensemble avec votre père. Alors il y avait qu'une guitare basse, comme on faisait. Il y en avait un qui jouait de la batterie, l'autre la guitare.
Oui,
vous faisiez
ça,
des petits.
Ça changeait. Et puis c'était pas non plus très très souvent, mais c'était quand même. Voilà.
Donc quand même d'avoir des parents fans de musique qui écoutent de la musique et qui s'intéressent aux instruments, ça trace une piste pour.
Je pense pas que ça trace une piste parce que mon petit frère il est ébéniste, rien à voir. mais non, c'est plus ça. En tout cas, ça ouvre, enfin ça montre quand même, ça apporte une culture, c'est plus une possibilité en plus quoi.
Ça a peut-être laissé s'exprimer ce que vous aviez déjà en vous, c'est-à-dire l'amour de la musique, et ça vous a permis ça vous a soutenu dans l'expression en fait.
C'est
artistique.
Ça. Et je ne sais pas si c'est que l'amour de la musique en soi, la musique, c'est par là que je me suis orienté, mais je pense que c'est plus une ouverture au côté artistique et création, production en général. Parce que par exemple, je reviens à mon petit frère. Il est pas du tout musicien, mais par contre, lui, il aime bien fabriquer des choses, quoi.
C'est de l'art aussi.
Oui.
Donc, est-ce que c'est pas pour vous la musique un moyen d'expression également ?
Clairement.
Ok. Et donc, vous avez envie de bricoler la musique à partir de là, après en avoir un petit peu joué avec votre père, puis de plus en plus, et vous l'avez fait sur votre ordinateur, je crois.
Oui, j'ai commencé. Quand j'avais mon ordinateur que j'ai toujours et que je devais changer, mais ça va arriver fort. Et au début, je savais rien faire. J'ai tout appris, tous les logiciels, j'ai appris petit à petit. Et du coup, forcément, au début, c'était un peu catastrophique sur Audacity. Mixer sur Audacity, c'est pas une bonne idée, hein, les jeunes. C'est pas, il faut changer après. Mais du coup, c'est venu. Puis aujourd'hui, produit pas mal de trucs un peu tout seul et c'est pas encore de la grande qualité, mais c'est vrai qu'on compare par rapport à l'époque, je pense que ça c'est un peu mieux.
Et vous m'avez dit que vous aviez gravé justement vous-même un CD avec vos propres compositions, et vous m'avez dit l'idée d'aboutir à un produit fini fait en totalité par moi-même était très plaisant.
Oui, c'est le premier CD que j'ai fait de mon tout premier, enfin Wow, album, il y avait 7 morceaux et le truc faisait 20 minutes max, mais c'était, ouais, c'était très gratifiant d'avoir un support fini avec une pochette que j'avais dessinée moi-même et tout. C'était sympa au début. Et du coup, bah, forcément, ça apportait encore plus de motivation et pour continuer, quoi.
Alors, après le lycée, et après cette découverte avec ce camarade de lycée qui vous a fait découvrir le rock et le métal, vous avez envisagé de poursuivre vos études à l'université. Alors, vous m'avez dit que l'université, c'était un environnement qui vous convenait mieux parce qu'il y a plus de liberté, c'est moins cadré comme le lycée et vous aviez besoin de ça. Mais vous vous êtes inscrit en musicologie et vous avez été déçu. Est-ce que vous pourriez exprimer un petit peu ce qui s'est passé pour vous ?
Voilà, c'était un grand parcours, la musicologie. C'est-à-dire que bah, je suis arrivé... juste après le lycée, j'avais 18 ans. À la sortie du lycée, du coup, j'ai décidé de faire une fac de musicologie. Et du coup, de revenir sur Tours, parce qu'à la base, je suis de Fontainebleau. Et première année, musicologie, Covid. Donc, c'était sympa, mais... Il y a eu plein de cours qu'on sautait, c'était impossible à suivre. Enfin, déjà pour quelqu'un de normal, c'est compliqué à suivre, mais alors vraiment quelqu'un qui n'est pas très motivé par le truc. Bref, voilà. Ensuite, j'ai redoublé l'année, je l'ai validé. Ah, c'était pas simple, mais c'est passé. Et après, deuxième année, stop, ça pouvait plus le faire parce qu'en fait, la musicologie, c'est vraiment. Il y a musique dans le nom, mais c'est plus des études. Universitaires qui ont pour sujet la musique. C'est comme, c'est exactement plus comme une fac de lettres ou quoi, mais avec le sujet pour musique, c'est pas faire de la musique, ça n'a rien à voir.
Et vous m'avez dit, quand on s'inscrit sur Parcoursup, en fait, c'est trompeur, parce qu'on croit qu'on va faire de la musique, mais en fait, on étudie la musique.
Alors, je sais pas si on croit forcément qu'on va faire de la musique ou quoi, mais en fait, c'est que sur Parcoursup et même dans les études supérieures, il n'y a pas d'études de musique. Enfin, il n'y a quasiment rien. Les seuls trucs, c'est des écoles privées comme Tous en scène à Tours et tout ça. Et le souci, c'est que c'est pas forcément... Il y a un diplôme à la fin, mais dans tous les cas, bon, c'est de la musique, quoi. Du coup, il n'y a pas forcément de diplôme. Et bon, les parents ne sont pas forcément rassurés. Et en plus, c'est souvent des écoles chères, mine de rien. Et donc, forcément, on s'oriente vers le premier truc qui a musique dans le nom. Sauf que, non, malheureusement, c'est pas là la bonne solution. C'est pas...
Alors, pendant cette année en musicologie où il y a eu le confinement, vous avez rejoint un groupe de musiciens et vous avez fait des répétitions. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puisque ce groupe de 3 musiciens vous a permis de faire de la musique ?
Oui, ça... En fait, ça a permis de commencer à voir un vrai groupe qui parce que j'avais vu quelques groupes avant, mais c'était souvent on a fait une répète, deux répètes max et ça s'est désagrégé tout seul. Là, c'est le premier groupe où vraiment ça a duré un bout de temps pendant un an. On a enregistré la moitié d'un album ensemble et puis bon après ça l'a pas fait parce que les différents entre musiciens c'est comme ça. Hein.
Donc, c'était un bassiste, un guitariste-chanteur et un batteur.
C'est ça.
D'accord. Et vous étiez le bassiste.
Oui.
Okay. Alors, ensuite, vous avez, comme vous nous l'avez dit, arrêté votre cursus en L2 de musicologie parce que vous n'aviez plus de motivation. Alors, élément important dans votre vie à ce moment-là, vous avez obtenu un diagnostic d'autisme. Est-ce que... Ce diagnostic est obtenu entre 20 et 21 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ce diagnostic ?
Eh bien, pas grand-chose.
Alors, vous m'aviez dit que vous aviez intégré un groupe d'entraide mutuelle, le GEM TSA à Tours, le GEM ECHO, qui rassemble des jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme.
Mm-hmm. C'est-à-dire que, c'est parce qu'à ce moment-là, justement, c'était le moment où j'avais un peu arrêté mon groupe, j'avais quitté la fac, du coup, j'avais vraiment plus trop de. Très peu de contact social, et du coup, c'était un peu une solution pour me faire voir des gens. Mais en soi, le diagnostic n'a pas changé énormément grand chose à ma vie. Enfin, j'ai toujours eu des soucis par rapport à l'intégration, la socialisation, tout ça. Et du coup, en fait, c'est pas vraiment une surprise ni forcément un truc qui m'a apporté énormément de choses en plus. Surtout que, par exemple, le GEM, il n'y a pas forcément besoin d'un diagnostic. Donc, dans tous les cas, ça aurait pas. Mais c'est plus. Ouais, une information en plus quand même qui permet de mettre un mot plus facile entre guillemets, même si je me lance tout seul sur des choses, mais le terme autisme veut pas dire grand chose et inclut beaucoup beaucoup de choses différentes. Enfin, voilà.
Mais dans ce GEM, vous avez quand même rencontré Victor, vous m'avez dit,
et
là ça a été le départ de votre d'un groupe qui s'appelle Overthink.
Oui, c'est ça. Bah en fait, c'est que par rapport à mon expérience d'avant dans d'autres groupes et tout ça, j'avais envie de monter un truc moi-même pour pouvoir faire en sorte de vraiment composer et puis avoir un projet où c'est moi qui produis la musique et pour pouvoir être plus libre créativement. Et du coup, j'ai demandé à des musiciens que je connais autour de moi. Donc, que je connaissais autour de moi, il y avait un batteur de Tous en scène et Victor du GEM. Du coup, on a fait. Oh, si, on a peut-être fait deux concerts. Ou... Ouais, deux ou trois, je sais plus. On a fait quelques concerts, en tout cas. Même après, il y a eu un deuxième guitariste. Du coup, ça a permis de commencer à jouer en live. Mais bon, c'était un peu. C'était très bancal encore à l'époque. Et du coup, forcément, ça s'est un peu cassé la gueule tout seul. Et mais après, bon, du coup, on en vient à janvier 2024. C'est là que j'ai vraiment du coup remonté un groupe autour de ce projet-là et qu'on a commencé vraiment à jouer, faire des petits bars, des petites scènes et tout ça. Et du coup, au total, on a enregistré, c'est surtout moi qui ai enregistré, mais, mais c'est déjà ça, un album et un EP 5 titres.
Alors, EP, on précise, pour les auditeurs, ça veut dire ?
Ça veut dire Extended Play, mais je pense que beaucoup de gens, aujourd'hui...
Moi, je ne savais pas. Donc...
C'est un support qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui pour les groupes qui se lancent.
C'est entre le single et l'album complet. Ok. Donc, avant de continuer, je pense qu'on va écouter un morceau de ce groupe Overthink. Et le titre que vous avez choisi, c'est « Landing ».
When is the landing? Tell me when. Tell me, 'cause I need an escape plan. I need to get out until we land. In that cursed way, I'm flying to my end. I get bored. Tell me, yeah, tell me quick. I won't be long. I need to wear myself from it all. What do I do next to stop the fall? I thought we were high. Forever can fly. I thought we were high, and there'd never be clouds. But I was wrong. Yeah, I was wrong. And now I'm falling, and I just wanna land. Thank you.
when he's delenting, when he's delenting, when he's delenting. I thought we were high and forever can fly. I thought we were high and there'd never be clouds. But I was wrong, yeah, I was wrong. And now I'm falling and I just wanna land.
Donc, avec ce groupe Overthink, dont on vient d'entendre un morceau Landing, vous avez fait à peu près 3 concerts, dont un à la salle Hockeygame à Tours. Plus.
Oui, plus. Pardon. Que ça. Je parlais des concerts qu'on avait fait avec l'ancienne formation, avec Victor et tout ça.
D'accord.
Et du coup, on en a fait. Oh, on a dû en faire quand même une bonne dizaine.
Ah oui, en effet.
15, je ne sais pas.
Pardon, j'avais mal compris. Et donc. Vous avez, à partir de là, vous avez, vous m'avez dit, bon, Overthink, on faisait de la musique, ça allait, mais vous aviez, en termes d'image, ça marchait pas trop, parce que.
Le projet, même les textes et tout ça sont très sombres, parce que c'est que des trucs un peu. Sur justement, bah, Overthink, c'est dans le nom, hein, c'est trop penser, tout ça, l'anxiété sociale, tout ce bazar, de toute façon, c'est tous les textes comme ça qui découlent de ça. Et donc, forcément, c'est surtout qu'en plus, dans le groupe, on est tous un peu des gens pas hyper sociaux. Et bah, du coup, sur scène, ça renvoie un peu une image, je pense, enfermée qui fait que. Bah c'est moins attirant, mais c'était quand même, enfin c'était chouette de jouer avec ça. Et mais là c'est juste que c'est tout récent, hein. c'est là j'ai besoin de faire une pause de ce projet parce que c'est compliqué, quoi. C'est il y a pas, enfin je pense que le rapport travail résultat est pas forcément par rapport à d'autres projets du coup justement que j'ai. Et là, on va enchaîner après sur une autre partie, après la chronique, sur un autre groupe dans lequel je suis qui s'appelle Grizzly. Et s'il y a d'autres groupes, projets qui ont beaucoup plus de. Je sais pas, c'est agréable, quoi, de participer. Et c'est vraiment plus une osmose qui fait que ça avance et c'est cool. Et là, Overthink, dans cette période en ce moment, c'est un peu. C'est flou et c'est pas agréable. Et du coup, voilà.
Vous avez besoin de renouveau. Alors, quand même, et puis on va faire la pause, comme vous l'avez dit, de la chronique de Louis tout à l'heure. Mais là, avant d'enchaîner sur le nouveau groupe Grizzly, intégrer Overthink vous a quand même fait prendre conscience que vous aimiez la scène et que vous aimiez vous produire devant un public.
Quand même, oui.
Ça a quand même été éclairant.
Oui.
Donc ça, c'est un bon déclic pour vous et ça a peut-être... fait en sorte que vous laissiez libre cours à votre créativité encore plus. Alors, on va faire une petite pause pour la chronique la chronique de Louis Pasquier, la chronique historique. Alors aujourd'hui, sa chronique est 22 octobre 1941, exécution de Guy Moquet, pardon.
22 octobre 1941, exécution de Guy Moquet. Guy Moquet, militant des jeunes communistes de 17 ans, exécuté avec 26 autres otages, vêtu dans la pression d'occupants allemands contre la résistance. Deux jours plus tôt, le lieutenant-colonel Karl Holt, l'officier allemand, avait été assassiné à Nantes par un commando de résistants communistes et en représailles, les autorités allemandes ont ordonné l'exécution de 50 otages. Guy Moquet, arrêté à Paris le 13 octobre 1940 pour distribution de tracts, est détenu au camp de Châteaubriant le 14 mai 1941. Le 22 octobre, il est désigné parmi les otages à fusiller. Avant son exécution, il rédige une lettre d'adieu à sa famille, devenue célèbre pour son courage face à la mort. Les 27 otages sont conduits à la carrière de la Sablière, où sont fusillés par groupe de 9. leurs derniers instants sont marqués par des chants patriotiques et révolutionnaires. La mort de Guy Mocquet devient rapidement un symbole de la résistance et du sacrifice de la jeunesse française. Le Parti communiste français l'érige en martyr, utilisant son histoire dans sa propagande clandestine. Il est cité alors dans la Nation par le général de Gaulle à la Libération.
Voilà, comme on est en retard sur le temps et qu'on a envie d'entendre encore Juliane Giga pour l'interview, merci à Louis d'abord d'enregistrer cette chronique tous les mois. Hein, il est régulier et toujours présent. Merci. Donc, Juliane, on reprend. On en est maintenant à votre projet au sein d'un groupe qui s'appelle Grizzly.
Oui, c'est ça. Alors, en janvier 2024, en parallèle de la reformation du Code Overthink, et du relancement du projet qui s'est fait du coup dans un cadre un peu plus pro à faire plus de concerts et tout ça, bah j'ai rejoint un autre groupe qui s'appelle Grizzly avec trois gars de Tours, enfin plus ou moins de Tours, il y a aussi des villages à côté ils cherchaient vraiment un bassiste qui depuis pas mal de temps est à faire un truc plus pro qui permette de faire des concerts, enregistrer des projets et tout ça. Et du coup, ils m'ont intégré au groupe. Et même s'ils sont un tout petit peu plus jeunes que moi, je pense, on a 2 ans d'écart. Voilà. Et ça s'est bien passé direct, le feeling et tout ça. Et du coup, on a commencé à faire de la musique ensemble. On a sorti notre premier morceau qui va passer juste après, en mars 2024. C'est pas arrêté jusqu'à maintenant, et puis c'est super cool, quoi. Genre, c'est un projet qui, c'est du rock français, très inspiré des groupes des années 90-2000, les Foo Fighters, les Red Hot Chili Peppers, tout ce genre de choses, mais en français, du coup. Et donc, c'est intéressant quand même. Et depuis là, on fait plein de concerts. On a enregistré un EP, 4 titres, avec le morceau qui va passer là dedans. Et on va bientôt enregistrer d'autres trucs qui vont bientôt sortir et ça va être cool.
Dans ce groupe, vous êtes guitariste et chanteur, hein?
Non, bassiste.
Ah oui, on dit bassiste, pardon.
Oui.
Guitariste, basse, ça, on dit pas ça, on dit bassiste.
Ouais, non,
pardon,
plutôt.
Pardon. Et chanteur.
Chanteur, oui et non, je suis pas le chanteur principal du groupe, mais je
chante quand même
deux chansons. Et je fais les chœurs aussi.
Très bien, donc vous chantez. Et dans ce groupe, vous avez tous la même implication. Et alors, à la différence du groupe précédent, Overthink, ça marche parce que mieux en public, puisque là, le public est là et vous suit,
y a
c'est ça.
Plein de choses, c'est que en fait, c'est déjà les gars sont un peu plus ouverts socialement que moi, donc forcément ça aide. En plus, on est tous un peu investis dans le projet. Bon, forcément, on n'est pas tous investis exactement pareil, mais quand même, on pousse tous pour que ça marche. Et en plus de ça, ce qui change aussi pas mal d'Overthink, c'est qu'on est vraiment tous copains dans la vraie vie. Et puis, du coup, je pense que ça se ressent un petit peu sur toute la communication, et même sur scène, qu'on s'entend vachement bien dans la vraie vie. Et du coup, c'est plus vivant, quoi. C'est plus agréable.
Il y a une bonne alchimie. Donc, va écouter un morceau de ce groupe Grizzly tout de suite. Et ce morceau s'appelle « Marche seul ».
J'aimerais rentrer, oublier ce qui s'est passé, combler ce besoin de l'aube à l'obscurité. Mes pensées troublées, ma tête vide se perd. Boulevard vide, éclairé, guide mon long trajet. Et si ce monde était fou? Et si moi j'étais fou? Survivrais-tu dans ma tête? Un jour sans retour, seulement c'est maintenant. Seul je trace ma route sans savoir où aller. Lâcher prise, juste le temps d'un instant. Manifeste ressenti, besoin de s'évader. Crépuscule tombé de la nuit.
Alors, on vient d'écouter Marche Seule, donc un morceau du groupe Grizzly. Alors, vous m'avez dit que maintenant, vous laissez tomber un peu Overthink et vous vous concentrez plus sur Grizzly. C'est ça?
Oui, c'est ça. parce que, en fait, Overthink, du coup, pour l'instant, c'est en pause indéterminée. Et du coup, je me concentre beaucoup plus sur Grizzly. On a des nouveaux morceaux qui vont être super. Et qu'on va enregistrer bientôt un nouveau truc. Et en même temps, là, je me concentre aussi sur un autre truc, du coup, plus personnel. Du coup, mon projet solo, entre guillemets, ce sera probablement avec quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, voilà, c'est solo. Pour l'instant, il n'y a pas de nom, c'est mon prénom.
Et ce projet, c'est celui pour lequel on a entendu le premier morceau en tout début. Hein. C'est pour ça que vous avez souhaité commencer l'émission avec ce morceau de projet solo prend une belle place dans votre vie.
Comme ça, le full cycle again. On arrive au début. Et c'est un truc vraiment où ça peut être plus en solo ou en duo sur scène avec pour l'instant une batterie sur bande avec pour grosse inspiration au niveau du style et tout ça, le groupe Earth. Parce que franchement, je suis fan absolu et puis je trouve ça trop dommage qu'il soit décédé dans un accident de voiture. Et c'est vraiment, sur scène, c'était incroyable. Et du coup, voilà, j'ai envie de recréer un petit peu ce mood à mon échelle. Et du coup, c'est aussi inspiré de d'autres trucs comme Mac DeMarco, gros inspi, forcément, le gars a inventé l'indie, enfin réinventé le truc, c'est incroyable. Et voilà, et oui, ça va arriver bientôt. Premier concert, entre guillemets, officiel, parce que il y a eu un petit événement déjà.
Oui, vous avez fait un concert en solo tout près de Fontainebleau.
Oui, ça c'était pour un petit concert associatif pour une asso dans laquelle mes parents, ma maman est. Et c'était avec les moyens du bord et puis la sono était pas incroyable. Mais on l'a fait quand même, c'était sympa.
Vous m'avez dit que vous étiez bien amusé, puis vous produire, ça vous a apporté du plaisir.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et ensuite, il y a eu un autre passage à Campus, en fait. Je crois que c'est ça, Campus, en fait. À Tours, au Casino de Beaumont, avec dans un événement du Crous. Et c'était, j'ai joué deux morceaux, mais c'était déjà... ça s'est bien passé comme ça, c'était cool.
Vous m'avez dit que vous mettiez beaucoup d'émotions dans le chant.
C'est ça. J'essaye de faire vivre le truc. Mais en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'indie, c'est aussi les groupes un peu comme... du coup, il y a Mac DeMarco, il fait un peu ça, mais ça reste très calme. Mais par exemple, un groupe que j'écoute énormément en ce moment qui s'appelle The Backseat Lovers. En fait, c'est le côté un peu doux, mais en même temps un petit peu avec des passages plus émotifs et avec plus de punch dans la voix qui peut, enfin, du relief dans la musique, quoi. C'est que ça amène parfaitement la transition parce que le prochain morceau est un morceau typiquement comme ça. Il y a un passage dedans où il y a plus d'émotions et puis de toute façon vous allez le voir. Ce morceau s'appelle Romance.
On l'écoute maintenant?
Exact.
Ok.
Away with me. give up, give up, give up, give up. It's not a choice, you need to stay. Don't walk away, not this way. I hope that someday we'll meet again.
Avec Julianne, Julianne Giga. Donc ce projet solo porte votre nom, Julianne Giga.
Pour l'instant, oui.
Oui, pour l'instant.
On va voir.
Alors ce que je voulais souligner quand même, c'est que pour ce projet, vous rassemblez diverses compétences qui sont des compétences techniques en ingénierie du son, enregistrement, mixage, sono. Le dessin et l'art en général, vous réalisez les visuels de vos albums. Des compétences en montage vidéo. La capacité de mener un projet de façon globale du début à la fin selon vos objectifs que vous vous fixez spécifiquement et vous maîtrisez l'anglais parfaitement. Alors, non, j'exagère. Vous faites la moue.
Bof, l'anglais parfaitement. Bon, je me débrouille quoi, disons. Et puis pareil, mener un projet parfaitement jusqu'au bout, bah pour l'instant, je ne gagne pas beaucoup de sous avec. Donc.
Non, mais vous l'avez mené tout de même.
Oui, c'est ça.
Gagner de l'argent, ça vient après.
Ouais, ça...
Vous l'avez fait, il est créé, le projet est là, il existe.
On y croit, hein, ça va arriver un jour.
Mince, vous voulez en faire votre métier, c'est surtout ça.
Bah,
c'est ce, qui vous...
ce serait bien, oui.
Ouais.
Ce serait bien.
Vous m'avez dit d'ailleurs quelque chose d'important, je trouve qu'on pourrait dire que vous produire sur scène vous donne l'impression d'exister. Parce que quand... vous étiez petit, vous aviez l'impression d'être transparent et vous aimez que les gens vous voient.
Même pas que petit, mais c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on est petit à l'école, qu'il n'y a pas grand monde qui porte attention parce que bah, c'est aussi ma faute. Hein, enfin, ma faute. Après, tout est relatif quand on est enfant, est-ce que c'est notre faute ou pas, mais ouais, c'était compliqué. Ça n'a jamais été trop le centre de l'attention, et puis bah, y a forcément... pas forcément consciemment une volonté de reprendre un peu le contrôle de sa propre vie ou je sais pas quoi, mais voilà, en tout cas c'est agréable de faire de la scène, pour résumer.
Parfait. Alors vous avez un concert prévu, hein,
oui.
Le 15 novembre, vous nous en parlez.
Oui, le premier vrai concert officiel avec bah du coup plus ou moins une heure de concert qui va se dérouler bah, au Misérable.
Le bar Les Misérables.
Oui, c'est ça. Le bar Les Misérables à Blanqui, à Tours.
Ouais.
Et ce sera le 15 novembre.
À quelle heure?
Et Bon, alors là, bonne question. Ce sera probablement autour de 19h le début, et puis fin 19h30. Dans ces eaux-là, quoi. Soirée.
Disons. Donc 15 novembre au bar Les Misérables dans le quartier Blanqui de Tours.
C'est ça.
Alors, vous m'avez dit aussi, quand on a préparé l'émission, que jouer avec un groupe, ça demande beaucoup d'organisation, c'est compliqué, des échanges, bien communiquer. Seul, c'est plus simple à gérer. C'est ce que vous m'avez dit.
Oui. Bah, c'est multiplier l'organisation, de toute façon, forcément. Il y a plus de matériel à emmener. Enfin, chacun doit prévoir son matériel, transporter les gens. Enfin, et puis, même... Tout le travail en amont de répétition et tout est forcément plus simple avec un effectif réduit. Donc, et puis surtout aujourd'hui, les gens, quand ils viennent dans les bars, même si, bon, quand ils viennent pour le rock, c'est, ils aiment bien quand même qu'il y ait du bruit, mais c'est vrai qu'une vraie batterie, ça fait tout de suite un bruit de fou et qui est pas forcément attirant pour les gens, entre guillemets, normaux, qui sont pas hyper friands de musique en général. Qui écoute pas de la musique tout le temps. Du coup, bah voilà, c'est quand même plus simple. Même si dans les faits, j'aimerais bien aussi un groupe qui marche aussi. C'est bien aussi parce que, mais même pour tout ce qui est petit bar, petite salle, c'est quand même, je sais pas. On va voir. De toute façon, hein, on lance le truc et puis on verra bien dans quelques mois comment ça se déroule.
Ouais, donc vous souhaitez trouver des opportunités de concert. Alors vous êtes étudiant en LEA pour l'instant, mais avant tout vous êtes artiste, on l'a bien compris, c'est votre priorité. Vous voulez en faire votre métier et vous auriez besoin de mentors finalement, de gens qui vous guident un peu et puis vous permettent de vous produire lors de concerts.
Oui, c'est ça. Bon, est-ce que c'est mentor à ce point-là ? Peut-être pas non plus, mais oui, des gens qui connaissent un peu le milieu et qui permettent d'apprendre et puis d'avancer, quoi.
Alors, l'émission est presque au bout. On va la terminer par un morceau en direct. Vous m'avez proposé de faire un morceau en direct en guitare acoustique, ce qu'on écoutera. Mais avant de vous entendre, eh bien, on va passer la chronique littéraire de Victoria. Aujourd'hui, sa chronique s'appelle « À travers les lignes » et aujourd'hui, elle va nous parler de « Tout le bleu du ciel vrai » de Mélissa D'Acosta.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce mercredi pour vous présenter un nouveau récit, que vous connaîtrez d'ailleurs peut-être pour certains d'entre vous. Je l'ai choisi bien qu'on en ait pas mal entendu parler ces derniers mois, car personnellement, il reflète le condensé de ce que j'apprécie dans un livre, c'est-à-dire plein d'émotions, des personnages attachants et des sujets importants à ne pas négliger. Ce livre n'est autre que le roman de Mélissa D'Acosta, Tout le bleu du ciel, qui est paru en 2020 et a d'ailleurs été adapté en téléfilm cette année, en 2025. Il raconte l'histoire de deux personnages, Émile et Joanne. Émile est un jeune homme de 26 ans, à qui l'on a diagnostiqué un Alzheimer précoce avec une espérance de vie d'environ 2 ans. Ne souhaitant pas prendre part aux essais cliniques proposés par les médecins et que sa famille l'encourage à faire, il va décider de partir pour un ultime voyage en camping-car pour faire le tour des régions de France. Enfin, au départ, il ne sait pas vraiment où il va. Il achète donc secrètement son véhicule, et puisqu'il n'a aucun proche en capacité de le suivre dans ce projet, il poste une annonce sur un forum pour trouver un compagnon de voyage, enfin dans l'espoir d'en trouver un. Et ce sera Joanne, une jeune femme de 29 ans, qui répondra favorablement à sa proposition, et décidera de le rejoindre sans même le connaître. Au départ, on ne sait rien d'elle, si ce n'est qu'elle porte des vêtements sombres, qu'elle est très discrète, qu'elle parle très peu. Nous sommes même face à deux caractères opposés. Une jeune femme qui est très calme, très discrète, presque un peu dans son monde, et un jeune homme qui lui est extraverti, bruyant, qui vit dans l'action. Mais ils sont liés par une seule et même chose, la fuite de leur vie. Et petit à petit, à travers des retours dans le passé de l'un et de l'autre, on apprend à cerner chacun d'eux. On comprend ce qui a poussé Joanne à quitter son quotidien, et une admiration profonde pour cette âme née pour le lecteur en même temps qu'elle naît pour Émile. Ce qui est vraiment très beau. Et Joanne, en gros, c'est un peu l'amie qu'on aimerait tous avoir, elle est extrêmement dévouée. Elle est dénuée de tout jugement et elle nous pousse dans nos retranchements avec douceur et simplicité. Elle apprend même l'art de la méditation à Émile pour l'aider à canaliser ses émotions. Elle lui apprend même à s'émerveiller devant des choses simples. Mais Émile aussi va lui apprendre des petites choses, notamment à réapprendre à rire, chose qu'elle ne parvenait plus du tout à faire tant le chagrin l'avait rongée. Vous verrez, il y a de multiples passages à l'hôpital qui vont survenir dans les moments de dégradation de la maladie d'Émile. Joanne, d'ailleurs, lui fera le magnifique cadeau de le demander en mariage. Bon, je vous spoil un peu, mais juste pour vous parler de cet acte magnifique. Elle ne le fait pas par amour, mais pour lui permettre de rester maître de sa volonté, face au personnel soignant qui insiste lourdement pour qu'il soit hospitalisé, et face à ses parents qui, du coup, ne seront plus ses responsables légaux et ne pourront l'obliger à suivre des protocoles de décès. Et donc, jusqu'à la fin, elle va appliquer à la lettre les souhaits d'Émile qui lui a fait part. Par rapport à sa santé, donc lui, il veut pas de fin de vie à l'hôpital et c'est ce qu'elle va essayer de faire autant qu'elle peut. Ce livre, il parle de sujets difficiles, qui sont aussi durs que beaux. La maladie incurable à travers Alzheimer précoce, le deuil, mais aussi l'autisme, et bien sûr l'amitié et l'amour. On souffre avec eux, on pleure avec eux, mais on sourit aussi beaucoup avec eux. En fait, on vit à travers eux dans tout le livre. Et vous noterez aussi que de nombreux autres personnages touchants apportent un supplément de beauté au récit. On a Myrtille, une vieille dame qui va les recueillir chez elle en échange de quelques services. Et aussi le petit Tom, un petit garçon atypique, que l'on apprend à connaître à travers les retours dans le passé de Joanne. Ce livre nous permet de nous évader. La description des paysages traversés y est magnifique, vous le verrez. Il suscite une curiosité telle qu'il est difficile de le poser pour se coucher, c'est du vécu. Les rebondissements sont là, rien n'est prévisible. Et personnellement, je trouve que ça fait aussi du bien d'avoir des petites bulles de bonheur qu'on vit à travers nos personnages. Et le message important dans ce livre, c'est que c'est important de nous rappeler de chérir toutes les rencontres que nous faisons au quotidien, même dans des moments difficiles, parce que ces rencontres, en fait, elles peuvent sembler insignifiantes, mais elles peuvent parfois devenir de vraies ressources auxquelles se raccrocher au fur et à mesure du temps. Bon, en gros, comme vous l'aurez compris, j'ai adoré ce livre. Et si vous voulez un livre riche en émotions, en réflexions, qui vous sorte un peu du quotidien, je vous le conseille fortement. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Et pour tout vous dire, j'ai même hâte de découvrir les autres ouvrages de cette même autrice. Je vous souhaite une très belle journée d'automne et je vous dis à dans un mois pour une nouvelle découverte littéraire.
Merci Victoria. Et alors, chose inhabituelle, on va conclure l'émission avec un morceau en direct, exécuté en direct par Juliane Giga. À vous.
Voilà, ça va être une reprise que j'ai pas fait beaucoup, mais ça va bien se passer. Une reprise des Ramones en acoustique, un peu du coup indie. Du coup. Voilà, j'adore les Ramones.
I told you so, she's doing my heart. I always love you. Yeah, yeah, she's the one. Yeah, yeah, she's the one. When I see her on the street, you know she makes my life complete. And I know I told you so, she's the one.